franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Les réfugiés, de nouveau à la une de la presse ce matin.
À la une du Figaro, qui parle d'un déferlement de réfugiés économiques venus du continent africain et qui pose à l'Europe un nouveau défi. Article très intéressant ce matin sur le site theconversation.com, signé des chercheurs Antoine Pécou et Martha Esperti, sur le rôle et la responsabilité des ONG qui viennent au secours de ces réfugiés. Sont-elles responsables de la crise des migrants en Méditerranée, s'interroge-t-il. En fait, la polémique est née l'an dernier après qu'un article du Financial Times mettait en cause le rôle de ces bateaux de secours affrétés par des associations, surtout pour pallier le manque de moyens des opérations européennes, Mare Nostrum puis Triton. Frontex les accusait rien de moins que d'être complices des passeurs en créant un appel d'air à l'intention des migrants. La justice italienne a ouvert une enquête, a conclu au manque de preuves, et puis un rapport vient d'être publié qui conteste également les accusations, mais pointe surtout du doigt le fait que le renforcement des contrôles aux frontières se solde mécaniquement par une augmentation des prises de risques en mer, et donc par une augmentation des morts. Dès lors, écrivent les auteurs, l'objectif humanitaire de sauver des vies se heurte inévitablement à la raison d'État qui souhaite contrôler l'immigration. Derrière ces polémiques, une question: qui a le droit d'intervenir en mer et de sauver les migrants? Les États, car ils doivent contrôler leurs frontières. Les associations, parce que les États ne respectent pas certains droits fondamentaux. Et si la réponse était dans une plus grande solidarité européenne? Oui, mais pour l'instant, et ça fait longtemps, ça coince. Le débat ne fait que commencer, recommencer plus exactement, alors que l'été et ses conditions météo propices aux traversées est presque là. Depuis le début de l'année, plus d'un millier de morts ont déjà été recensés.
On poursuit, Hélène, avec un ministre chez nous qui fait la une.
Le cas Bayrou, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Premier couac sur la forme au sein du gouvernement. Clash, dit même Le Figaro, avec la passe d'armes entre lui, François Bayrou, et le Premier ministre. Tension sur le fond également avec l'enquête préliminaire ouverte autour des attachés parlementaires du Modem. Le Canard Enchaîné s'interroge tout particulièrement ce matin sur le cas de la secrétaire particulière du président du Modem, François Bayrou, qui aurait été rémunéré par le Parlement européen. Le cas Bayrou qui inspire particulièrement les dessinateurs de presse. Pétillon, par exemple, dans Le Canard Enchaîné. Coup de fil à Radio France. François Bayrou à l'appareil. Oui, mais lequel? Demande un standardiste et dégrené. Le garde des Sceaux, le maire, le citoyen ou l'agrégé de lettres? De ces multiples casquettes coiffées par intermittence par François Bayrou, Nicolas Bétou, dans l'Opinion, se moque ce matin. On connaissait, écrit-il, la théorie des deux corps du roi, le corps humain et le corps politique qu'il dépasse. Mais voilà Bayrou, adepte, lui, de la théorie des six corps. Garde des Sceaux, maire de Pau, citoyen, pour tenser les journalistes de France Inter, président du Modem, pour négocier les investitures, bientôt, à n'en pas douter, professeur agrégé et ex-ministre de l'Éducation, quand il voudra dire son fait à son successeur. Et le sixième? Eh bien, le sixième, en refusant sèchement la règle de prudence verbale que lui demandait de respecter le Premier ministre, c'est François Bayrou, dans son corps d'éleveur de chevaux, qui s'est révélé avec la ruade, évidemment. Eh bien, François Bayrou, redevenu unique, quoique, répond dans une interview au Monde cet après-midi. Sur le fond, d'abord, l'enquête sur les emplois au Modem. Le ministre de la Justice parle de pure calomnie et dit n'avoir aucun doute sur le travail de la justice. En raison de ma fonction, je n'apporte aucun commentaire, poursuit-il, mais je n'en pense pas moins. Cette fois, le citoyen Bayrou ne s'épanche pas. Sur sa passe d'armes, enfin, avec le Premier ministre et son coup de fil à Radio France, je défendrai toujours la liberté de la presse, mais je considère qu'il y a symétriquement une liberté de critique de la presse, surtout dans une conversation privée, insiste-t-il. Je n'ai pas l'intention de mettre un bâillon ni de devenir d'un coup inodore, incolore et sans saveur. La justice n'est pas seulement une institution, pour moi, elle est une valeur. François Bayrou qui affirme que ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe ne lui ont fait part de leur désapprobation sur le sujet. Oui, enfin, sauf hier, publiquement, sur l'antenne de France Info. Mais visiblement, l'auditeur Bayrou n'a rien entendu.
Oui, François Bayrou qui a le téléphone de France Inter mais qui a perdu l'adresse puisqu'il devait venir cette semaine. Il a préféré aller s'expliquer ailleurs. Dernier jour de campagne pour les candidats au second tour des législatives et quelques conseils donnés aux futurs élus.
C'est une députée élue en 2012 sous l'étiquette socialiste, Monique Rabin, aujourd'hui de nouveau en campagne, qui les dispense dans le numéro de cette semaine de l'hebdo Le 1. Elle raconte son arrivée il y a 5 ans au Palais Bourbon et son envie de changer le monde. Elle raconte surtout le lot de désillusions vécues entre absence de formation, mépris de la direction et difficultés inattendues. Dès les premiers jours, témoigne-t-elle, il y a trois lieux pour lesquels un parlementaire doit se battre. Sa place dans l'hémicycle, sa commission et son lit. Place dans l'hémicycle pour être vue des caméras. Bon, ça, elle laisse tomber. Elle se retrouve tout en haut avec ce qu'on appelle les montagnards de l'Assemblée. Personne n'explique aux néophytes comment ça fonctionne. Du coup, 28 députés ne voteront pas la première fois. Ils n'ont tout simplement pas trouvé le boîtier. Le lit, ça n'a l'air de rien, mais l'assiduité aux réunions tardives se joue aussi entre ceux qui doivent se contenter d'un maigre canapé dans leur bureau avec salle de bain commune à l'étage et ceux qui disposent d'un vrai mini-studio. Et puis le plus important, évidemment, la commission à laquelle on est rattaché, avec une hiérarchie entre elles, la plus prestigieuse, celle des finances, et son revers de la médaille, faut toucher sa bille, question économie et équilibre budgétaire. Elle avoue avoir laissé passer le premier budget sans en maîtriser les enjeux. Ensuite, ce sont les administrateurs de l'Assemblée qui lui en ont expliqué les mécanismes et le calendrier de la procédure parlementaire. Députée enfin un peu aguerrie, elle découvre aussi que le vrai pouvoir à l'Assemblée se joue surtout au sein des cabinets ministériels qui décident de tout. Elle apprend à se méfier des lobbyistes de plus en plus présents. Elle découvre enfin le sexisme inouï du Palais Bourbon. Dernier conseil aux novices, dit-elle, souvenez-vous de l'article 27 de la Constitution, tout mandat impératif est nul. C'est le garant de votre liberté. Et pour tenter peut-être de conjurer le ballotage défavorable dans lequel elle se trouve placée dans le Rhône, c'est en femme libre, justement, que Najat Vallaud-Belkacem se présente ce matin. Libre hier de défendre la loi travail El Khomri, équilibrée, dit-elle. Libre aujourd'hui de fustiger la future loi travail Macron-Pénicaud, qualifiée d'obsession revancharde d'une partie du patronat. Code du travail, l'urgence de la gauche, tribune à lire dans Libération.
On termine, Hélène, par du cinéma.
Avec le Alain Delon de l'Afghanistan. La presse ce matin craque pour Salim Shahin, cette superstar afghane dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il est le héros d'un documentaire jugé passionnant du ex de France Inter, Sonia Kronlund, Nothing Hood. Libération, Le Figaro, Télérama, Les Échos s'enthousiasment pour ce génie autoproclamé de la série Z, conteur de sa propre légende et de celle de son pays. Alors il ne bouscule pas les traditions de son pays, mais le simple fait de faire des films, de briquet de broc dans un pays où être cinéaste, c'est risquer sa vie comme un soldat, réjouit tous les critiques ce matin. Super nanar, peut-être ses 110 ou 111 films, mais avec lui, conclut Étienne Sorin dans Le Figaro, on trouve plus d'amour du cinéma que dans nombre de films sérieux.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.